Il y a trois, vous avez trois associés pour votre intervention, Olivier Hamon, Alexandre Weinberg et Laura Sellies. Je ne sais pas lequel des trois veut commencer d'intervenir. Il faut que vous vous manifestiez par la voix qui vous
Alexandre
convient.
Weinberg lève
Alors,
la main.
Alexandre a levé la main virtuelle. Alexandre, ouvre ton micro et parle.
Voilà, je l'ai ouvert, vous m'entendez?
Oui.
Alors,
bonjour tout le monde.
Bonjour.
Content de vous, content de vous retrouver même à distance. Voilà, je me suis associé à cette communication parce que pour deux raisons contraires. La première, c'est que c'était le sujet le plus éloigné de mes intérêts et de mon histoire intellectuelle personnelle. Alors j'étais curieux. Et puis l'autre raison, c'est le titre que je trouvais formidable, du nous inclusif au nous exclusif, ou l'inverse, je ne sais plus. Parce, ça m'a touché parce qu'effectivement, je pense que dès qu'on est dans un nous, un rien trop affirmé, on est dans l'exclusion de ceux qui ne sont pas dans le nous. Donc pour moi, ça me pose déjà un premier problème, ou pour le dire plus gentiment, je trouve intéressant d'interroger la limite du concept du nous. Il y a peut-être moyen de résoudre cette tension, inventer un troisième nous qui inclurait le non-nous. Je ne sais pas. Alors, en vous écoutant, je n'ai pas vraiment de questions ni d'objections. Peut-être l'une ou l'autre réflexion, et alors deux, trois points qui m'ont touché, qui m'ont parlé, donc je vais les aborder successivement. Il y en a quatre. Le premier, c'est la dimension langagière qui emprisonne nos perceptions et nos sensibilités possibles à l'altérité. Vous avez parlé des limitations, par exemple, du « tu » précisément, c'est le sujet, le « tu » dual inclusif ou exclusif des aborigènes. Et tout à coup, je me dis, c'est vrai, c'est un peu banal de le dire, hein, que le langage nous donne en soi déjà une vision du monde qui est déjà une difficulté pour, dans une volonté d'inclusivité, je dirais, dans son langage. Mais au moins, en prendre conscience, c'est une première chose. Mais plus on répète, on nous donne des exemples, vous nous donnez des exemples de ces limitations, et alors, évidemment, voilà, c'est un élargissement de ma conscience tout à coup auquel j'ai assisté tout à l'heure. Notamment aussi, dans le même sujet, l'histoire du totem qui a des sens différents, qui a un sens très local et qui est devenu un terme générique fourre-tout par la vision occidentale des premiers anthropologues qui ont rencontré cet objet, entre guillemets objet, bien entendu. Voilà, ça c'est le premier point, c'est la question du langage et de la conscience qu'on peut avoir de nos limitations qui font qu'on est excluant ou pas. Je ne sais pas le dire plus clairement, mais je crois que vous comprenez l'idée. Alors le deuxième point, c'est j'ai beaucoup aimé aussi la notation « businesswoman » et « businessman ». Ce n'est pas ceux qui travaillent, c'est ceux qui s'occupent. Et du coup, je me suis dit, bien, ceux qui s'occupent, ceux qui prennent soin, c'est ça qui m'est venu comme idée. Prendre soin du paysage, prendre soin des relations. Ça, c'est le deuxième point. La notion du prendre soin qui apparaît en filigrane, voilà, de l'idée business, man et woman, au sens du mot, au sens des aborigènes que vous avez, dont vous faites partie. Alors, le troisième point, c'est un point qui m'est venu en regardant le film hier soir, La Jamano. J'ai été très touché par la petite séquence où un de vos interlocuteurs vous explique le ciel sur un écran d'ordinateur avec une constellation, ses jambes et tout à coup, cette insertion de leur être entre le cosmos au sens où nous l'entendons, les étoiles, l'univers, et la Terre aussi où nous sommes. Et en écho à cette très belle petite scène, il y avait peut-être le même bonhomme, peut-être un autre, qui donnait la même idée d'une autre façon en expliquant les mamelles qui allaitent. Celle de droite, si je me rappelle bien, c'est celle du cosmos, qui allaitent le cosmos, et celle de gauche, allait être la terre, ou alors quelque chose qui représente la terre, je ne sais pas. Mais l'idée que j'en retiens, c'est cette cause, ce qui me semble être une conscience permanente, ou de où il se situe, entre la terre et tout le reste. C'est comme si on avait deux repères au lieu d'un, quoi. Je trouve ça pas mal.
Merci.
Pas mal pour nous, pas mal pour nous. Et alors, quatrième point, c'est l'histoire de l'amour qui, évidemment, n'a pas été inventée qu'en Occident. On n'a qu'à regarder toutes les histoires, les contes et les légendes. Ce n'est que des histoires d'amour déçu, de lamentation extraordinaire que nous connaissons tous. Mais en plus, vous avez ajouté, il existe aussi l'amour entre d'autres entités qu'entre humains. Alors ça, c'est très important, évidemment. Et ça nous paraît, nous, occidentaux, un peu limité, comme un peu exotique, ça, mais en cherchant pas longtemps, on trouve tout de suite des situations où nous tombons en amour de quelque chose qui est non humain. Je sais pas, moi j'ai envie de raconter une petite expérience. J'ai visité la réserve précieuse du cabinet des manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique, et on m'a ouvert un incunable qui était un parchemin, une cosmographie datant du 14 ou du 15e siècle. Et les pages étaient du parchemin. Donc, du parchemin, c'est du cuir transparent qui fait entre un demi-millimètre et un millimètre d'épaisseur. Ça gondole légèrement. Alors, quand il tournait la page, on entendait des petits bruits comme ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y avait des miniatures peintes en couleurs vives. Et alors ça, c'était extraordinaire. On ne peut pas imaginer la profondeur de ces couleurs, ces bleus, ces verts, ces rouges, qui n'étaient pas en surface, mais qui étaient dans la masse de l'épaisseur du parchemin. Ça m'a fait un choc esthétique identique à des chocs amoureux que j'ai connus. Pendant 3 jours, je ne pensais plus qu'à ces couleurs. Le soir, je m'endormais, je pensais à ces couleurs. J'étais vraiment en amour. Mais ça n'a pas duré 15 ans. Je n'ai pas été vivre dans le désert avec mon parchemin. Ça s'est terminé après quelques jours. Mais donc, cette histoire de l'amour, elle m'a tout de suite fait écho. Et je vais terminer avec ça. On est toujours dans le point numéro 4. On a cité la possession généralisée comme fait universel. Ça, c'était de Pierre, l'intervention première. Il avait cité cette constatation d'un philosophe du 19e siècle, Gabriel Tarde. Possession généralisée, c'est le fait universel. On démarre en physique, en biologie, symbolique, perception intellectuelle, les droits, capture générale. Alors, vous avez parlé de l'amour. Et du coup, tombe dans ma tête l'idée que la rencontre, puisqu'il s'agit d'amour, peut être non possessive. Donc, si on est dans l'idée de la captation générale, la possession générale, ben, l'amour est général aussi. Donc, on peut être dans l'amour général, avec tous les degrés, évidemment, intermédiaires. Ce n'est pas blanc ou noir. Où est-ce qu'on met le curseur entre la possession d'un côté et l'amour de l'autre? C'est le même genre de nuance que celle qu'on connaît maintenant mieux depuis quelques années, de ne plus voir le darwinisme que comme une lutte pour la vie, une compétition, mais aussi de la coopération et de l'altruisme. Beaucoup de recherches ont montré que des espèces qui coopèrent et qui sont altruistes ont un avantage évolutif. Donc, de nouveau, on voit une limitation qui est due à une sorte de cadre intellectuel des premiers savants qui ne voyaient que la lutte et la force et l'écrasement de l'autre. Et puis, notre civilisation, notre pensée évoluant, on se dit ben, il y a peut-être d'autres choses. Et puis, on découvre l'altruisme, on découvre la coopération. Et donc, je pense qu'on peut découvrir, après la captation générale et la possession générale, ben, l'amour qui n'est pas possessif. Et si on peut aimer une forêt, un arbre, c'est évidemment impossible d'être possessif en étant dans l'amour d'une forêt, d'un arbre ou d'une étoile. Et donc voilà, il y a une dimension politique qui y apparaît, mais ça c'est un autre sujet que je ne développerai pas.
Alexandre, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu acceptes que de cette espèce de grand T'infinis quel écran un autre vienne te couper.
Mais tu ne m'as pas coupé, cher Cyril. Je venais à l'instant de mettre le point final à mon intervention.
Tu savais qu'on s'entendait.
Tu l'as bien senti.
Merci Cyril. Merci.
Barbara, vous voulez réagir?
Juste un tout petit commentaire à propos de l'amour pas forcément entre espèces, mais déjà au sein d'une espèce. Les émeus, vous savez qui sont les autruches australiennes, sont monogames à vie. Et donc, on ne doit pas chasser un seul émeu, on doit toujours chasser le couple. Parce que si on chasse soit le mâle, soit la femelle, eh bien, ils resteront seuls pour toujours, ils ne se reproduiront pas, et puis surtout, ils seront malheureux. Donc, par amour des émeus, il faut tuer le couple, pour le manger, bien sûr.